Il est 8h.
Aujourd'hui, les conditions de contamination et de diffusion du virus rendent ces tests quasi inutiles.
Le président de la FCPE, les parents d'élèves, pas du tout convaincus par le protocole anti-Covid de rentrée des classes en primaire et maternelle. Une rentrée d'autant plus scrutée que commerçants et restaurateurs travaillent, eux, sur les modalités de réouverture quand le moment sera venu. Jusqu'à quel point est-on responsable de ces actes ? Question complexe au cœur de l'affaire Sarah Halimi, dont le meurtrier a été jugé irresponsable pénalement. Mais la loi pourrait changer sur ce point. Triple succès français aux Oscars cette nuit. Meilleur scénario, meilleur court-métrage et meilleur son. Un des lauréats, Florian Zeller, sera avec nous dans ce journal. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Sur le plan économique et sanitaire, faut-il vraiment croire à l'horizon de réouverture à la mi-mai ? Et sur le front de la lutte contre le terrorisme, quel sursaut après l'attentat islamiste à Rambouillet ? Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour. À quoi pourrait ressembler une reprise pleine et entière des activités en France ? Eh bien, on va en avoir une petite idée en regardant ce qui se passe du côté des écoles aujourd'hui. Plus de 6,5 millions d'élèves font leur rentrée pour les primaires et maternelles. Avec un protocole qu'on pourrait tout à fait imaginer et adapter au monde de l'entreprise. On va d'ailleurs en parler dans un instant avec Maud Descamps. Mais d'abord, Virginie Riva, avec vous, on va s'intéresser à cette rentrée scolaire avec un protocole très strict.
Oui, avec le retour à la règle 1 cas égale une classe fermée. Aussi, pour éviter un maximum les contaminations, l'aération est recommandée toutes les heures. Les classes en plein air sont encouragées. Le maillon faible, ce sont les cantines qui restent ouvertes, avec un espacement de 2 mètres désormais exigé entre les élèves. La question en suspens, c'est que faire des enfants lorsque leur enseignant est malade ? Auparavant, ils étaient dispatchés dans d'autres classes. L'idée, c'est de l'éviter le plus possible grâce au recrutement. À côté de toutes ces mesures, le gouvernement sur les tests. Dès aujourd'hui, les enseignants et les aides maternelles vont en recevoir 2 par semaine, gratuitement. Ils sont en train d'être acheminés ce matin dans toutes les écoles. Des autotests à réaliser ensuite chez eux et le nombre de tests salivaires réalisés à l'école pour les élèves est censé doubler d'ici à 15 jours.
Virginie Riva et puis les collégiens et lycéens, eux, vont devoir attendre la semaine prochaine pour la rentrée en présentiel.
Et puis on se met aussi à votre place, si vous êtes parent d'élève. La grande question, c'est est-ce que ce protocole va être efficace ? Le président de la FCPE, les parents d'élèves, Rodrigo Arenas, a quelques doutes, notamment sur l'intérêt de procéder à des autotests.
Aujourd'hui, les conditions de contamination et de diffusion du virus rendent ces tests quasi inutiles. D'ailleurs, l'Allemagne, qui est citée en exemple sur ce côté-là, puisqu'elle mettait des autotests en distribution libre dans les supermarchés, revient sur cette stratégie-là, parce que ce n'est pas efficace. Et d'ailleurs, nous suivons, excusez-nous, l'avis de l'Académie de médecine, qui dit que les autotests doivent être faits avec du personnel qualifié pour qu'ils soient à tout le moins efficaces, mais ils ne permettent pas d'avoir le rendu qu'on en attend.
Le président de la FCPE, Rodrigo Arenas, qui était l'invité du 5-7 de Théo Manval ce matin.
Dans le journal de 9h, tout à l'heure, nous serons en direct d'une école marseillaise avec Stéphane Frangy pour voir concrètement comment se déroule cette rentrée.
Voilà pour l'éducation nationale, mais vous l'aurez compris, les pistes qui sont explorées à l'école pourraient tout à fait servir de base de travail pour la réouverture des commerces, des restaurants. D'ailleurs, les acteurs de ces secteurs rencontrent la ministre du Travail, Elisabeth Borne, aujourd'hui. On fait le point sur les pistes envisagées par le gouvernement avec Maud Descamps.
Une chose est sûre, confie-t-on au ministère du Travail, rien ne bougera avant la mi-mai, rien avant que l'exécutif n'ait confirmé la réouverture des commerces, des restaurants et des lieux culturels. La première mesure d'allègement concernera le télétravail. L'idée est de passer des 4-5 jours de télétravail par semaine actuelle à 3, voire 2. Tout cela se fera progressivement, précise-t-on dans l'entourage d'Elisabeth Borne. Autre mesure d'assouplissement sur la table, les règles de distanciation dans les restaurants d'entreprise. Mi-mai, il sera à nouveau possible de déjeuner avec un ou plusieurs collègues, tout en respectant un certain nombre de gestes barrières. Et enfin, les moments de convivialité, comme les pots de départ, seront à nouveau autorisés. Là encore, ils feront l'objet d'un protocole sanitaire précis. En revanche, pas question de faire le distinguo entre les salariés vaccinés et les autres. Les règles seront les mêmes pour tous. et l'entourage de la ministre de préciser que ce n'est pas demain qu'on risque d'enlever le masque en entreprise.
Voilà pour les pistes de réouverture, à condition bien sûr que la vaccination avance. Dans le journal de 7h, Anne Le Gall vous donnait d'ailleurs ce chiffre qui interroge. Seulement 36% des 20-40 ans sont prêts à se faire vacciner, selon une enquête de l'Institut Pasteur. Plus de 14 millions de personnes ont déjà reçu au moins une injection en France. L'objectif, c'est 20 millions à la mi-mai.
La réouverture des commerces et des restaurants, les perspectives, la vaccination aussi, on va en parler avec l'invité de Sonia Mabrouk. À 8h15, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.
Et nul doute que le ministre aura à cœur de réagir à un tout autre sujet. Sur notre antenne, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a clairement établi un lien entre immigration et terrorisme. Elle réagissait au meurtre de cette fonctionnaire de police à Rambouillet vendredi dernier, meurtre perpétré par un Français de 36 ans, arrivé illégalement de Tunisie en 2009 et régularisé 10 ans plus tard. Écoutez Valérie Pécresse.
Si on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut d'abord cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Ce que je crois, c'est que c'est très déstabilisant, à la fois pour tous ceux qui sont en situation régulière et aussi pour nos forces de l'ordre, de se dire qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui enfreint la loi de la République, puisqu'il est en situation irrégulière, et que ça ne constitue pas un
Donc
délit.
Vous dites clairement que...
Je pense qu'il faut que ça redevienne un délit, et je pense que sur la base de ce délit, il faut prononcer des ordonnances d'expulsion, mais immédiates.
Et puis un hommage à la fonctionnaire de police tuée sera rendu devant tous les commissariats de France aujourd'hui. Et puis le père et deux cousins de l'assaillant sont quant à eux toujours en garde à vue.
Plus de 25 000 personnes ont manifesté hier en France en soutien à Sarah Halimi. Fin 2019, son meurtrier avait été jugé irresponsable pénalement en raison d'une bouffée délirante au moment des faits. Jugement confirmé tout récemment.
Cette affaire, ce meurtre nous interroge et nous pose une question à tous et à toutes. Jusqu'où est-on responsable de ces actes ? Il s'agit d'un débat de société et Marion Dubreuil, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti en est bien conscient. Il s'est d'ailleurs engagé à présenter fin mai un projet de loi pour modifier les conditions dans lesquelles l'irresponsabilité pénale peut être retenue.
Oui, l'enjeu de ce débat, c'est de savoir s'il faut ou non distinguer les différentes causes d'un trouble psychique ou neuropsychique, et notamment quand le suspect a eu un rôle actif avec la prise de stupéfiants, par exemple. C'est le cas de Kobili Traoré, le meurtrier de Sarah Halimi. Le postulat des partisans d'un changement de la loi, c'est de dire qu'un consommateur de stupéfiants recherche une modification de ses perceptions, qu'il est donc conscient, au moins au départ, qu'il peut ainsi perdre ses moyens et altérer son discernement. Aujourd'hui, la loi ne fait pas de distinction entre les différentes origines des troubles mentaux, que ce soit pathologiques, génétiques ou liées à la consommation de drogue ou de médicaments. Pour le garde des Sceaux, il s'agit d'un vide juridique. Éric Dupond-Moretti aimerait pouvoir tenir compte de la prise volontaire de substances toxiques par un individu conduisant à l'abolition de son discernement.
Marion Dubreuil.
Trois étoiles bleues, blanc et rouge dans le ciel d'Hollywood. Trois Français primés aux Oscars cette nuit.
Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide.
Il faut trouver une autre solution, on ne peut pas continuer comme ça.
Dis pas ça ici.
Je ne quitterai pas mon appartement.
A commencer par l'écrivain Florian Zeller, nouvelle coqueluche des Américains. Il décroche l'Oscar du meilleur scénario pour ce film dont vous entendez un extrait, The Father, le père, qui est tiré d'une de ses pièces. Et il est ce matin avec nous.
Bonjour Florian Zeller.
Oui, bonjour.
Et félicitations pour votre Oscar.
Merci, merci.
The Father, déjà primé à plusieurs reprises au théâtre comme au cinéma, une trentaine de récompenses déjà. Là, ce matin, l'Oscar, ça a une saveur particulière.
Oui, c'est une saveur particulière. C'est en tout cas une grande joie. Et on a commencé la soirée avec l'Oscar du meilleur scénario et on l'a terminé avec l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Et pour moi, c'était une joie très particulière de partager ça avec Anthony Hopkins, parce que j'ai écrit, j'ai pensé, j'ai espéré ce film pour lui, et je ne dissocie pas le désir de faire ce film du désir de le faire avec lui. Et donc là, ce soir, ou plutôt ce matin, de partager ce moment avec lui, c'est quelque chose de... Voilà, une joie immense.
Et on me souffle que vous venez de raccrocher avec Anthony Hopkins. Florian Zeller, qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là?
Ben... Il vient de se réveiller et il vient juste de l'apprendre et il était honnêtement d'une très très grande émotion. Enfin, et du coup moi-même j'étais traversé d'une très grande émotion. Vous savez, faire un film, c'est partager une aventure très intime et donc on a développé ce lien presque affectueux l'un avec l'autre et voilà qu'il puisse avoir pour ce film cette conségration majeure, c'est quelque chose qui me bouleverse beaucoup.
Florian Zeller, merci beaucoup et félicitations.
Merci. Merci mille fois, merci beaucoup.
Florian Zeller, l'un des héros de la nuit, mais également autre primé français, Alice Doyard, co-réalisatrice d'un documentaire sur Colette Marin-Catherine, 93 ans, qui retourne sur les lieux de la mort de son frère, déporté en 43. Et puis Oscar du meilleur son pour Nicolas Becker pour le film Sound of Metal.
Merci beaucoup Simon Rubin, c'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h10.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans quelques toutes petites secondes, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, au micro de Sonia Mabrouk. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h13 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Bienvenue à vous et bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Est-ce que vous faites un lien entre immigration et terrorisme ou bien est-ce tabou pour vous ?
Je vois venir la question. Je voudrais d'abord éviter toute polémique sur ce sujet qui est un sujet grave. Il y a un fait. Le fait, c'est que les attentats qui ont été perpétrés sur le sol français depuis plusieurs mois ont été perpétrés par des personnes immigrées. C'est un fait. Et je pense qu'il n'est pas bon, sur ce genre de sujet, de nier les faits. Les attentats, notamment celui de Rambouillet, qui a suscité une telle émotion, une émotion justifiée, a été perpétré par une personne immigrée. Et pour autant, je vais vous dire, je pense qu'il serait à la fois injuste et dangereux d'établir une équivalence entre immigration et terrorisme. Ce serait d'abord injuste vis-à-vis de l'immense majorité des personnes immigrées en France qui sont venues chercher en France la paix, le travail, la tranquillité, qui respectent nos valeurs, qui respectent notre culture et qui respectent tout simplement les règles de droit. Et puis ce serait dangereux parce que le mal terroriste, hélas, est beaucoup plus profond.
Oui.
Que les attentats commis par les frères Kouachi, commis par Amédi Coulibaly, commis par Mohamed Merah, l'ont été par des ressortissants français, élevés en France, éduqués en France. Le mal terroriste est beaucoup plus profond et ne se résume pas au problème migratoire.
Mais Bruno Le Maire, est-ce qu'on peut faire du en même temps sur ce sujet ? Pourquoi une partie de votre gouvernement, Gabriel Attal, nie ce lien ? Qui avez-vous peur de stigmatiser aujourd'hui ?
Mais il n'est pas question de faire du en même temps, il s'agit simplement de voir la réalité en face. Oui, les derniers attentats commis en France l'ont été par des personnes immigrées. Et ça pose de vraies questions sur la nécessité absolue qu'il y a de mieux contrôler nos frontières, Gérald Darmanin s'y emploie, de refouler systématiquement aux frontières les personnes qui sont en situation irrégulière. Et de manière plus générale, ça pose la question de notre droit migratoire au niveau européen comme au niveau national.
Mais est-ce qu'il faut aller plus loin ?
Est-il ? Oui. Oui, je vous réponds très sincèrement.
Un exemple, Xavier Bertrand dit, lui, président, il ne permettrait pas à un étranger entré illégalement en France d'être régularisé.
Je ne vais pas venir sur chacune des propositions qui sont faites par l'opposition.
Elle
est essentielle. Je dis simplement, de manière générale, que notre droit migratoire européen comme notre droit migratoire national mérite d'être revu pour garantir
la
sécurité, le respect des règles de droit à l'ensemble de nos compatriotes.
Ça fait des années que cela est dit. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance ? D'ailleurs, à chaque attentat, Bruno Le Maire, les mêmes mots sont répétés.
Il ne peut pas y avoir d'impuissance.
Ça,
je le redis, le problème migratoire est une question de droit qui doit être traitée au niveau national comme au niveau européen. Je considère qu'aujourd'hui, le droit européen n'est pas adapté à ce qu'est la réalité des contrôles qu'attendent nos compatriotes à nos frontières. Je dis également que le problème terroriste, je me suis exprimé depuis des années sur le sujet, je ne suis pas le seul, d'ailleurs beaucoup de responsables politiques français ont parfaitement pris conscience du risque, est d'abord un problème culturel, un problème de radicalisation, un refus de nos valeurs, l'extension d'un islam politique que le président de la République,
ça, c'est
je
le
rappelle,
diagnostic.
A dénoncé dans
Monsieur
son
le
discours
maire,
des Mureaux en octobre 2020.
Que faites-vous face à cela ? Parce que là, vous opposez une riposte juridique et technique. Alors, quel combat culturel opposé à une haine anti-France ?
Mais nous opposons d'abord une réponse technique et sécuritaire parce que les Français veulent légitimement la sécurité face aux risques terroristes. Et quand Gérald Darmanin propose, par exemple, un meilleur croisement des fichiers, une meilleure utilisation de l'intelligence artificielle pour utiliser les données et repérer très en amont le risque d'actes terroristes, il a parfaitement raison. Quant au combat culturel, c'est un combat sur plusieurs décennies pour réaffirmer notre histoire, pour réaffirmer notre mémoire, pour réaffirmer notre attachement à la langue française, pour rappeler qu'en République, la loi de la République l'emporte toujours sur les lois religieuses.
C'est essentiel ce que vous dites.
C'est un combat permanent.
Vous dites l'histoire, Bruno Le Maire, mais quand Emmanuel Macron, sur la chaîne américaine CBS, parle de déconstruction de notre propre histoire, est-ce qu'on lutte contre la haine anti-France en reprenant le lexique de la cancel culture, comme le fait le président ?
Je ne pense pas du tout que ce soit ce qu'a voulu dire le président de la République. Vous savez, il n'y a que dans les régimes autoritaires et que dans les dictatures qu'on n'est pas capable de regarder son histoire en face et qu'on a une histoire immobile.
Jusqu'à les démocraties,
dans les états de droit, nous avons la nécessité de regarder notre histoire en face et de la relire à chaque fois pour nous assurer qu'elle reste vivante. Quand Jacques Chirac, en 1995, reconnaît que l'État français a une responsabilité dans les crimes de Vichy, est-ce qu'il révise l'histoire ? Non, il la regarde en face. Ne confondons pas révision de l'histoire de France, qui serait totalement inacceptable, et regarder son histoire en face, et ça est le propre d'une grande nation. Quand on a une grande histoire comme la nation française, quand on a des mémoires aussi variées, multiples, qui sont le fruit de siècles et de siècles d'histoire, on peut et on doit regarder son histoire en face.
J'en viens à présent, Bruno Le Maire, à la situation sanitaire et à l'horizon de la mi-mai. Pas de grand soir de réouverture, dit le porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez rouvrir petit bras?
Non, ça veut dire qu'on va rouvrir progressivement en fonction de la situation sanitaire. Je crois que là aussi, nous avons toujours été clairs avec le président de la République, avec le Premier ministre.
Clair, vraiment? Vous pourriez nous donner une date ce matin, un horizon, un cap?
Ce n'est pas moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qui fixe les dates. L'horizon qui a été fixé par le président de la République, c'est la mi-mai. À la mi-mai, si on se met à tout rouvrir de manière brutale, sans coordination, alors même que nous y préparons depuis plusieurs semaines, qu'est-ce qu'on va faire? On va réactiver la circulation du virus.
Mais 15 mai ou 10 mai? Je suis précise parce qu'avant le week-end de l'Ascension pour les commerces, c'est essentiel. Ceux qui nous écoutent ce matin, monsieur le maire.
La mi-mai, c'est plutôt le 15 mai que le 10 mai. Après, je ne veux pas rentrer dans des dates précises, je dis juste que c'est la mi-mai qui est aujourd'hui notre point de référence.
La dégressivité des aides, des compensations avec les réouvertures se fera de manière progressive. Ce sera vraiment de la dentelle pour éviter, malheureusement, peut-être des faillites ou des cascades de faillites.
Oui, ce sera du sur-mesure. Vous avez des économies françaises qui sont très différentes. Vous avez toute une part de l'économie française qui aujourd'hui tourne très bien. Regardez ce qui se passe dans le secteur industriel. Aujourd'hui, ça redémarre. Les industriels retrouvent confiance et ils réinvestissent. Bien, pour ces secteurs-là, qui sont prêts à redémarrer, nous allons mettre à leur disposition, début mai, 11 milliards d'euros de prêts participatifs sur le 20 qui était prévu. 11 sur les 20 qui étaient prévus. Et je tiens à remercier les 18 compagnies d'assurance,
donc
la Caisse des dépôts et consignations, qui ont levé son... Oui, ils ont joué le jeu. On les a suffisamment critiqués lorsqu'ils n'avaient pas joué le jeu pour reconnaître que sur les prêts participatifs, les assureurs ont joué le jeu, mettent sur la table avec la Caisse des dépôts et consignations 11 milliards d'euros de prêts participatifs, c'est-à-dire de l'argent frais,
d'ici
15 jours, début mai, de l'argent frais pour toutes les entreprises qui vont pouvoir réinvestir, réembaucher, recréer des emplois. C'est des prêts de très long terme, 8 ans, avec un différé de remboursement de 4 ans. Donc c'est très intéressant pour les entreprises. Et ça montre bien que toute une partie de l'économie française est en train de redémarrer.
Il faut être nuancé.
Et puis, il y a les autres, c'est-à-dire les restaurateurs, les bars, les hôtels, le tourisme, l'événementiel, qui est pour moi un vrai sujet de préoccupation. Et je sais qu'il y a beaucoup d'attentes dans le secteur événementiel. Nous ferons des propositions adaptées à ces secteurs-là. Et pour tous ces secteurs, le retrait des aides ne peut être que progressif. On n'a pas pris autant de moyens pendant 14 mois pour sauver les emplois et les entreprises, pour tout perdre en 3 semaines en nous précipitant à retirer les aides.
Monsieur
le retrait ne sera que progressif.
Que progressif, mais il y a des secteurs dont on parle peu et je voudrais insister ce matin sur un secteur en particulier, c'est le sort des fonderies. Beaucoup de nos fonderies françaises sont en grande difficulté. Qu'est-ce que vous dites ce matin à tous ces gens qui travaillent? Est-ce que vous leur dites qu'ils travaillent, que c'est fini? Que ce n'est plus possible aujourd'hui au sein de ces fonderies?
Je leur dis que notre responsabilité, ce n'est pas de faire la politique de l'autruche, se mettre la tête dans le sable et faire comme si de rien n'était, c'est d'anticiper et d'accompagner. C'est ce que nous allons faire ce matin avec Elisabeth Borne. Nous recevons les deux présidents de Stellantis et de Renault, Carlos Tavares et Luca De Meo, l'ensemble des syndicats, et nous allons nous intéresser en particulier aux fonderies. Pourquoi? Parce que les fonderies, c'est 15 000 emplois. Parce que les moteurs électriques consomment beaucoup moins de fonte ou d'aluminium que les moteurs électriques. Et donc ces emplois, ils sont clairement menacés. Alors on peut toujours nier...
Mais est-ce qu'ils sont viables?
Mais ils peuvent d'abord être utilisés pour d'autres débouchés. Par exemple le nucléaire. La fonte peut être utilisée dans le nucléaire. Et si je défends autant le nucléaire, c'est que derrière, il y a des centaines de milliers d'emplois directs et indirects, dont les fonderies. Et puis, il y a un certain nombre de salariés, d'ouvriers... qui ne pourront pas poursuivre leur activité. On le sait. pourquoi le nier ? Pourquoi s'accrocher en disant les 15 000 emplois resteront 15 000 emplois quoi qu'il arrive ?
Il faudra les accompagner.
Ce n'est pas la vérité. Mmh. Dans ce cas-là, les salariés, il faut les accompagner. Et nous travaillons avec Elisabeth Borne à une solution très nouvelle. Nous allons voir si les constructeurs l'acceptent ce matin avec les organisations syndicales, qui serait de prévoir des moyens financiers spécifiques pour accompagner les ouvriers d'effondrie, leur permet de se requalifier et du coup retrouver un emploi. Vous savez, la façon de gérer les crises depuis des décennies en France consiste à attendre le dernier moment, on se prend le mur, on réagit et il y a des licenciements. Je préfère proposer une autre méthode avec Elisabeth Borne, qui consiste à regarder les difficultés technologiques structurelles, à les mettre sur la table avec les syndicats. Je rappelle que c'est une proposition de la CGT.
Et on verra, parce que vous la mettez sur la table ce matin.
Et ensuite, d'accompagner et d'anticiper les mutations.
Vous parlez d'anticipation. Il y a aussi le plan de relance. Ce mercredi, Bruno Le Maire, présentation du plan de relance, c'est important, français, de 100 milliards à Bruxelles. L'objectif, c'est d'obtenir les 40 milliards d'aides européennes. Mais franchement, puisque vous parlez d'anticipation, on n'aurait pas pu le présenter plus tôt face à l'urgence ?
L'essentiel, c'est qu'il soit présenté. L'essentiel, c'est qu'il soit présenté.
Trop lent,
je préfère me tourner vers l'avenir. J'aurais évidemment préféré qu'il soit disponible plus tôt. Mais la France touchera une partie de cette aide, environ 10%, c'est-à-dire un peu plus de 5 milliards d'euros, début septembre, ce qui nous permettra d'accompagner la mise en place du plan de relance français. Je rappelle que nous avons commencé à le décaisser il y a maintenant plusieurs
sous
mois.
Sous réserve que les 27 États membres
aient
tous ratifié le plan européen.
Mais ce sera le cas et la France touchera début septembre un peu plus de 5 milliards d'euros au titre des fonds européens pour la relance. Et quant à la relance française, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, elle marche remarquablement bien, elle avance vite. Il y a 30 milliards d'euros d'engagés sur les 100 milliards.
Tout va bien.
Sur l'environnement, sur l'industrie, sur l'accompagnement des jeunes, la relance fonctionne bien.
Si j'agis sur la relance européenne, c'est que ces aides, elles sont conditionnées. Est-ce qu'elles sont conditionnées à une réforme des retraites ? Est-ce qu'il faut le dire clairement ? Oui, on obtiendra cet argent si on met en place
Non, je vais vous dire non, parce que ce n'est pas exact. Donc je suis là pour dire des
Bruxelles
choses qui sont
exactes. Bruxelles réclame depuis des années cette réforme. Ça, ce n'est pas.
Oui, mais ça fait des années, je crois, que je dis qu'une réforme des retraites est nécessaire dans notre pays.
Oui, vous allez dans leur sens.
Parce qu'elle est bonne pour la France. Ce n'est pas la Commission européenne qui nous demande quoi que ce soit. Ça, c'est le raisonnement de Mme Le Pen.
Non, voilà
qui, pour décrédibiliser l'Union européenne et décrédibiliser la réforme des retraites, nous dit que c'est une exigence
Monsieur
de
le Maire,
Bruxelles.
Bruxelles réclame depuis plusieurs années une réforme, je cite, pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite, comme le recommandait le Conseil européen en 2019 dans son avis sur le programme de stabilité de la France. Je crois que Mme Le Pen n'a pas écrit ces lignes.
Mais je vais être beaucoup plus simple que vous. Ce n'est pas Bruxelles qui nous demande une réforme des retraites. C'est la France qui a besoin d'une réforme des retraites pour que son système de retraite par répartition auquel nous sommes attachés soit financièrement viable. C'est nécessaire également pour inciter tous les Français à travailler davantage. C'est nécessaire si on veut éviter, ce qui est le cas malheureusement depuis une vingtaine d'années, l'appauvrissement relatif des Français, de nous tous, de nos enfants, de nos petits-enfants, par rapport aux Allemands ou par rapport aux Américains. C'est ça qu'on veut comme destin pour la France. Moi, ce que je veux comme destin pour notre pays, je reviens au début de notre discussion, c'est une fierté culturelle de ce que nous sommes comme nation, mais c'est aussi la prospérité, c'est aussi la capacité à bien vivre.
Mais la prospérité pour le prochain quinquennat, cette réforme.
Vous ne pouvez pas garantir la prospérité à nos enfants et nos petits-enfants si nous ne travaillons pas tous collectivement davantage, c'est-à-dire si nous n'entrons pas plus facilement sur le marché du travail et si nous ne permettons pas aux personnes de plus de 55 ans de travailler davantage.
Pour le prochain, éventuellement, quinquennat, s'il y en a un ?
Mais c'est ce que je souhaite. Autant se projeter dans l'avenir et dire clairement aux Français ce que nous voulons pour notre nation, pour notre société et aussi pour nos enfants et nos petits-enfants.
Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre invité ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia, il est 8h27 sur Europe 1.
Europe 1. Mathieu Béliard.
À suivre un nouveau point sur l'info avec Marion Calais, la météo, Laurent Cabrol, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau journal avec Marion Calais.
Et ce sont donc plus de 6 millions d'enfants qui retrouvent en ce moment leur classe et leur professeur. La rentrée pour les élèves de maternelle et de primaire après 3 semaines à la maison. Leurs parents ce matin entre soulagement et interrogation.
C'est vrai que d'un côté, on est content de les avoir, mais bon, ça fait aussi plaisir de reprendre un peu nos marques, reprendre le travail.
On va partir du principe qu'il n'y aura pas de fermeture et que tout va bien se passer. Et si c'est le cas, s'il y a un cas, eh ben, on s'adaptera. C'est ce que l'on fait de toute façon depuis maintenant plus d'un an et demi.
Et oui, s'adapter face à d'éventuelles fermetures de classe, car le protocole est clair. Il y aura retour à la maison dès le premier cas de contamination. D'éventuels cas qui vont être traqués jusqu'à la fin de l'année scolaire. Recours massif aux tests en version salivaire pour les plus petits, en version nasale et autotest pour les enseignants et les lycéens. Des lycéens qui, comme les collégiens, reprennent eux à distance cette semaine. Pour le gouvernement, pas question de revivre les bugs d'il y a 3 semaines. Des recommandations ont donc été formulées, Virginie Riva, pour les parents comme pour les professeurs.
Oui, il a été demandé aux professeurs d'utiliser le plus possible le dispositif du CNED, Ma classe à la maison, victime d'attaque il y a 3 semaines. La cybersécurité a été renforcée. Il y avait également un deuxième problème, la salle d'attente qui faisait goulot d'étranglement. Normalement, les capacités ont été surdimensionnées et le site peut accueillir 12 millions de connexions en simultané. L'idée donc, si vous n'avez toujours pas de compte CNED, c'est de vite en créer un, car ça prend un peu de temps. Et puis, quelques petits gestes peuvent permettre d'éviter la saturation. Côté ENT, les environnements numériques de travail qui permettent d'échanger avec les professeurs. En cas de difficulté de connexion, mieux vaut attendre 2-3 minutes et ne pas multiplier les essais sur différents supports. Autre conseil important, il faut se déconnecter des ENT dès lors que vous n'en avez plus l'usage. Enfin, évitez sur la messagerie de l'ENT d'envoyer des documents trop lourds. Ils peuvent être déposés dans d'autres espaces prévus à cet effet.
Des conseils signés Virginie Riva pour Europe 1.
Et ce matin, en ce jour de rentrée, Emmanuel Macron est attendu aux côtés du ministre de l'Éducation nationale dans une école de Melun.
Il s'agira, dit l'Élysée, de remercier les enseignants pour leur engagement depuis le début de la crise. Au programme aussi aujourd'hui, cette réunion entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux pour évoquer un calendrier du déconfinement dans les entreprises. Et en attendant un retour à la vie normale, ces nouvelles images qui interpellent. Et cette ambiance de fête, rassemblement festif dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Des centaines de personnes présentes, sans masque et sans distanciation. Les gardiens du parc ont dispersé la foule peu avant le début du couvre-feu.
Je ne vois pas ce qui vous permet de dire que c'était une fête, Marion Calais. Bon, c'est une des conséquences de la crise sanitaire et de la limitation des déplacements. On savait déjà que la mortalité routière avait atteint un plus bas historique l'an dernier. Un constat qui se manifeste aujourd'hui par de nouveaux chiffres.
Oui, ce révélé ce matin par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France est issu des cours envoyé par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, avec donc désormais des compteurs au plus haut sur les permis des automobilistes, Damien Mestre.
Oui, une augmentation qui n'a rien de négligeable d'ailleurs. Prenez les courriers de reconstitution du capital de 12 points. Vous savez, c'est le nom du courrier que l'on reçoit après 3 années sans infraction et qui nous permet de récupérer nos points sur le permis. Eh bien, l'envoi de ce courrier en 2020, il est en hausse de 34%, alors qu'à l'inverse, le nombre de courriers de retrait de points, lui, est en baisse de 13%. Tout cela, ce sont les chiffres de la sécurité routière qui rappellent bien sûr que l'année 2020 est une année exceptionnel par l'importance de la baisse du trafic routier. Mais attention, cela ne veut pas dire que les conducteurs ont oublié du jour au lendemain les mauvaises habitudes, car avec de grandes routes vides et totalement dégagées pendant le confinement, eh bien les très grands excès de vitesse, ceux de plus de 50 km/h au-dessus de la limitation, eux, ils sont en nette augmentation en 2020.
Précision signée Damien Mestre pour Europe 1. La réponse de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, à la droite et notamment à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui hier sur Europe 1 avait appelé à cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration après l'attaque au commissariat de Rambouillet commise par un Tunisien de 36 ans arrivé illégalement en France en 2009. Pour le ministre de l'économie, il y a quelques minutes sur Europe 1, le mal terroriste ne se résume pas aux problèmes migratoires. Il serait dangereux, a-t-il dit, d'établir une équivalence entre immigration et terrorisme.
Ils se sont déroulés cette nuit. Les Oscars, 93e édition, avec 3 Français récompensés.
Oui, Florian Zeller, meilleur scénario adapté pour The Father, qui a vu d'ailleurs aussi récompenser son acteur principal, Anthony Hopkins. Prix du meilleur court-métrage documentaire attribué à Colette, qui raconte le pèlerinage d'une résistante dans un camp allemand où son frère a été assassiné. Enfin, prix du meilleur son pour Nicolas Becker, qui a travaillé sur le film Sound of Metal, portrait d'un batteur de heavy metal qui perd l'audition. Le football, enfin, est à 4 journées de la fin du championnat de France. Cette fois, encore un peu de suspense après la victoire hier soir de Lille contre Lyon. 3-2. Ils sont toujours 3, Julien Froment, dans la bataille pour le titre.
Exactement. 3 clubs, 2 points d'écart et 4 matchs pour les départager. Rarement la course au titre aura été aussi serrée et passionnante, avec un avantage tout de même à Lille. Mené 2-0 sur la pelouse de Lyon. Hier, les Lillois ont su renverser la situation. Score final 3-2. Une victoire digne d'un champion. Et l'entraîneur Christophe Galtier, qui ne se cache plus, le LOSC vise la plus haute marche du podium.
Maintenant, c'est un objectif, bien évidemment. On ne peut pas se cacher. Là, on est à 4 journées de la fin et on est premier. Donc, on va devoir être performant, s'arracher sur tous les ballons, sur tous les matchs qui vont arriver pour arracher des victoires et tenir jusqu'au bout. Après, si on n'y arrive pas, ce n'est pas la fin du monde. Et ça ne sera pas spécialement une grande déception. On aura peut-être rêvé. J'espère que mes joueurs rêvent autant que ce que je rêve.
Ouais, Lille, qui n'est plus engagée dans aucune coupe, hein, ni nationale ni européenne, peut rêver et surtout espérer une contre-performance du PSG. Un point de retard au classement, tiraillé entre sa soif d'Europe et le maintien de son hégémonie nationale. Un Paris triple champion de France en titre. Quant à Monaco, troisième à 2 points du leader lillois. Il ne perd plus, n'encaisse plus de buts et se verrait bien coiffer tout ce beau monde sur la ligne d'arrivée.
Et Paris qui rêve aussi de son côté d'Europe. Vous le disiez, Julien, on les suivra mercredi.
Contre Manchester City.
Demi-finale
allez,
à suivre sur Europe 1.
Quel programme,
ouais. C'est beau.
Merci d'avoir donné le programme de ma semaine, mes amis. Julien Froment, Marion Calais, c'était le journal. Merci Marion, 8h36 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, ben on l'attendait, cette pluie, elle est là. Alors elle n'est pas là partout, malheureusement. Pour ceux qui, justement, étaient impatients, eh bien, elle est présente sur une grande moitié sud. Alors pas la pluie, pour l'instant nous avons beaucoup de nuages. Des pluies se sont présentées ce matin sur la région Rhône-Alpes. Elles étaient un petit peu présentes dans le sud-ouest. Et là, vous revoici, les revoici sur le Midi-Pyrénées. Donc elles reprennent un peu de vie sur les régions du sud-ouest et elles vont envahir, on va le dire, hein, tout simplement le sud de la Loire. C'est plus simple à résumer et je crois que ça correspondra tout à fait à la réalité de ce que nous aurons aujourd'hui. Le bassin méditerranéen n'est pas épargné, ne sera pas épargné. Il y aura aussi des orages dans ce secteur et puis l'Auvergne, le massif central, donc dans son ensemble, l'Auvergne et le Limousin seront touchés. Dès un ciel voilé sur la Bretagne, la vallée de la Loire, la Bourgogne et la Normandie, la région parisienne dans le courant de l'après-midi. Mais beaucoup de soleil sur la Picardie, le Nord, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace. Vous avez pratiquement toutes les régions ont été citées, je l'espère. Et puis les températures aujourd'hui entre 15 et 22 degrés. 15 à Deauville, 17 à Sedan, 18 à Belfort, à Paris, Strasbourg, Bordeaux, Nice, Rennes et Laval entre 19 et 20. 21 à Tours, à Vichy et Poitiers, 22 à Marseille et 23 degrés à Nevers. Voyons maintenant rapidement le demain. Eh bien, ce sera presque comme aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de pluie. Et puis mercredi, ce sera un ciel d'alternance, nuages et éclaircies. Mais nous allons assister à une petite baisse des températures qui va devenir assez progressive jusqu'au week-end du 1er mai, qui n'est pas folichon pour l'instant.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe. Notre santé, Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le médecin d'Europe 1, tous les matins. Question. Ce matin, vous allez nous parler d'un phénomène extraordinaire. Il serait possible de déterminer à quel moment notre vigilance et notre concentration sont à leur maximum.
Exactement. Alors, on l'a tous expérimenté. Il existe des moments dans la journée où nous sommes naturellement moins vigilants et donc moins performants. Sauf que cette variation de vigilance, eh bien, elle est physiologique. Nous sommes tous programmés pour être actifs au même moment et fatigués aussi à une heure prédéterminée. C'est ce qu'on appelle le rythme fondamental. Il est donc possible de créer une courbe de vigilance en fonction de la journée. Et ce qui est incroyable, c'est que cette courbe, elle va suivre exactement celle de votre température. Alors, je m'explique. On sait que la température corporelle, elle varie légèrement sur 24 heures. Et lorsque celle-ci va s'élever, eh bien votre organisme se prépare à être dans une phase active, à être éveillé et à être efficace. Et à l'inverse, lorsque votre température baisse, eh bien votre vigilance, elle aussi, ne tarde pas à diminuer.
À quel moment de la journée est-ce qu'il faut, comment dire, tout donner au travail ou au contraire se reposer alors ?
Eh bien, vous allez voir déjà dans un premier temps que nous nous reposons et nous travaillons, en particulier les enfants, à contre-temps de nos besoins physiologiques. Alors, entre 9h du matin et 11h30, vous êtes dans une phase active en principe, moment où, normalement, vous êtes dans un éveil bien actif, vous allez être efficace, c'est le moment idéal pour être productif et pour les enfants d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, entre midi et 14h, on l'a tous expérimenté, on est dans une phase de repli, nous sommes fatigués, on est moins performants physiquement. Et puis, c'est le moment où on doit se reposer, où les enfants devraient faire la sieste. Et puis, entre 17h et 20h, vous êtes dans une nouvelle phase de vigilance avec d'excellentes performances physiques, mais aussi intellectuelles. Et on le sait, les enfants sont souvent excités, les bébés vont se mettre à pleurer. Mais en fait, c'est le moment idéal pour étudier et apprendre très vite. Et puis naturellement, entre 23h et 5h du matin, vous allez dans une phase de fatigue, de faible vigilance, mais cette vigilance va être minimum, et ça va être le point critique, entre 2 et 5h du matin. C'est l'heure à laquelle d'ailleurs, où se produisent de nombreux accidents de voiture, dus à des erreurs humaines, ou même pire, des accidents plus graves, comme l'accident de la centrale nucléaire aux États-Unis à Three Mile Island, qui s'était emballé à 3h du matin, et les ingénieurs et techniciens sur place n'ont pas réussi à prendre les décisions qui s'imposent. tous à votre thermomètre et à votre montre, c'est bientôt l'heure d'être actif.
J'ai bien suivi le moment où ils sont tout tendus, tout énervés là, le soir, c'est le meilleur moment pour
je normalement ce apprendre. Soir.
Je penserai à vous, mais peut-être même que je filmerai. Allez les enfants, on va travailler maintenant. C'est Jimmy qui l'a dit.
Merci. C'est une prescription.
Merci Jimmy Mohamed. La carte vitale, ils prennent pas les enfants, c'est ça le problème.
Non, ils en veulent pas.
Tout à l'heure, 15h, sans rendez-vous avec Mélanie Gomez sur Europe 1, 8h40. Notre planète, comme tous les matins avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin Fanny, vous nous parlez de l'accès des vélos aux voies initialement réservées aux voitures.
Oui, la piste cyclable est dépassée. Place maintenant aux grands axes avec le vélo mobile qui n'est pas une invention de la première fraîcheur, je vous l'accorde, puisqu'il est né au début du XXe siècle. C'est un vélo trois roues équipé d'une coque qui inclut un arceau pour protéger la tête du pilote, des rétroviseurs, des clignotants et même des phares. Le vélo mobile se propulse plutôt en position allongée, ce qui permet d'aller plus vite pour moins d'efforts, car cette position et la forme aérodynamique du véhicule font que sa vitesse moyenne de circulation oscille entre 25 et 60 km/h.
Ah oui.
Vous l'aurez compris, l'intérêt est de pouvoir utiliser ce vélo sur des routes prévues pour les voitures en minimisant la vulnérabilité du conducteur aux intempéries, aux accidents et à la fatigue.
Et vous dites que c'est un véhicule qui répond aux principaux freins à l'usage du vélo en France.
Oui, c'est vrai, le vélo mobile rend complètement accessible de longues distances qu'on ferait normalement en voiture, surtout si on opte pour un modèle avec assistance électrique. En prime, on fait du cardio et surtout, l'argument principal du vélo mobile, c'est la sécurité. Car moins de 30% des utilisateurs de vélo se sentent en sécurité lorsqu'ils roulent sur des grands axes. D'où l'intérêt de circuler dans un modèle de vélo plus rapide, plus visible et doté d'une signalétique qui l'apparente à une voiture. La coque est même prévue pour laisser le vélo se comprimer en cas d'accident pour épargner le pilote. Une solution mobilité qui fonctionne aussi bien en ville que sur des routes départementales ou nationales pour parcourir quelques dizaines de kilomètres.
Où en est la cote de popularité du vélo mobile en France et ailleurs d'ailleurs ?
Alors, il peine à se démocratiser en France. Le vélo mobile, pour tout vous dire, est surtout pratiqué par le Vélo Mobile Club de France et quelques adeptes sporadiques. On peut donc en compter quelques centaines, tout au plus. Mais en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, des gros constructeurs les produisent déjà en série, ce qui permet de développer des modèles adaptés à différents usages. Des modèles familiaux, sportifs, tout-terrain ou même avec un espace de stockage avec un coffre à l'arrière. Mais en France aussi, les constructeurs commencent à ouvrir boutique. Une solution low-tech qui pourrait bien changer la donne en matière de mobilité bas carbone.
Merci Fanny Agostini, notre planète, c'est tous les matins sur Europe 1, 8h43. Dans quelques instants, on les retrouve. Nicolas Canteloup avec Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ah bah tout de suite, on va retrouver Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Et oui, bonjour ma chère Julie, rebonjour ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer, mais surtout regarde le monde rentrer de vacances. Et oui, vous l'avez compris, des vacances à moins de 10 km, il faut bien le préciser, de chez soi.
Oui, c'est voilà, ça. Oui.
Vous avez compris qu'on est à l'abri du jet lag en ce moment, Julie. Allez, l'info du jour, après trois semaines à la maison, c'est la rentrée des classes pour les élèves d'école primaire.
Ouais.
Et oui, c'est une grande nouvelle. Plus de Reine des Neiges, plus d'orteils fracturés à cause des petits Legos qui traînent partout. Plus de papa, je m'ennuie. En fait, l'école, c'est devenu la SPA pour gamins. On va pas se mentir, on les y abandonne, mais c'est vrai qu'on culpabilise moins que quand on les laisse à la SPA. Allez, l'autre info, c'est que j'ai reçu ce matin, c'est un scoop, un vrai scoop, Florian Zeller. Pas fatigué d'ailleurs par son aller-retour à Los Angeles, vu qu'il
n'est pas allé. Hein, c'est ça, ouais.
Florian Zeller. Florian Zeller a remporté l'Oscar du meilleur scénario avec The Father, une adaptation d'une de ses pièces. Oui, des Oscars sans dîner de gala, on le précise, avec des stars restées chez elles. C'était la pire année pour gagner un Oscar. C'est pas Sandra Bullock ou Brad Pitt qui lui a remis l'Oscar, c'est un livreur du PS. Voilà. Allez, ça va être dur pour lui. Courage Florian, c'est pas simple de gagner un Oscar avec l'ambiance des 7 d'or.
On les avait oubliés, ces 7 d'or.
Ah oui, bah ouais,
merci Mathieu.
Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron est avec nous maintenant. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Alors, vous avez beaucoup parlé de la lutte contre le fléau de la drogue. Les jeunes macronistes se sont exprimés en faveur de la légalisation du cannabis. Mais vous êtes toujours contre.
Mais oui, vous savez, moi, chère Julie Leclerc, j'ai moi-même été jeune.
Non.
Jusqu'à l'âge de 11 ans, si. Puis après, je suis passé très rapidement à la vie d'adulte. Le bac à 12 ans, prépa à 13, Sciences Po, l'ENA, le tout bouclé à 16 ans. Bon, bref. Bien, sachez, et je le dis à vos auditeurs, que si j'avais fumé du cannabis,
oui,
j'aurais probablement eu mon bac seulement vers 13 ans, voire 14, peut-être même à 15 ans. J'aurais été juste Premier ministre ou simple ministre. Bref, j'aurais lamentablement échoué.
Oh, s'il vous plaît. Alors, parlons du meurtre de Sarah Halimi maintenant. Le coupable de ce meurtre horrible ne sera pas jugé car il avait fumé du cannabis et il a été considéré comme victime d'une bouffée délirante. On rêve.
Oui, c'est terrible, c'est terrible. Et en même temps, c'est assez pratique. Moi, par exemple, maintenant, je peux dire « Désolé, j'avais fumé un bédo quand j'ai nommé Castex. »
Bah tiens, sur le même sujet, Jean-Marie Le Pen souhaitait intervenir.
Hey, bonjour. Alors, je parle docteur Jean-Marie, expert psychiatrique. Effectivement, peu de gens le savent, mais selon mes études, n'est-ce pas, le cannabis est antisémite. Et je ne sais pas si vous le sachiez, puisque nous parlions de passé simple avec monsieur
Hitler. Ah oui, c'est ça, oui, oui, oui.
Si vous le savez, mais monsieur Hitler, en son temps, fumait des gros ouinges, n'est-ce pas? Et moi-même, j'ai pu fumer de temps en temps de la beuh, quand il m'est arrivé de déraper sur les chambres à gaz.
Bien sûr.
Je demande donc à l'État français réparation. J'étais victime de bouffées délirantes, voilà.
Et voilà, bah, c'est pas crédible, mais c'est pratique, hein, cette histoire.
Tu vois, que ouais, je parle de M. Hitler, vous tendez tous dans ce studio, n'est-ce pas?
Allez, stop. La campagne de vaccination stagne, la faute à la défiance d'une partie de la population face au vaccin AstraZeneca. On va rappeler qu'il y a plus de risques d'être frappé par la foudre que d'avoir un effet secondaire du vaccin. Bonjour Jean Castex.
Oui, bonjour Madame Julie, et M. Béliard, bonjour à papy et mamie, et qui ne doivent pas craindre le vaccin. Et la preuve, regardez, ne serait-ce qu'hier, Jean-Michel Blanquer s'est fait vacciner avec le AstraZeneca et il n'a malheureusement aucun effet secondaire, disons-le.
Malheureusement, vous dites ?
Ben oui, parce que s'il était cloué au lit 3 jours, ce serait 3 jours pendant lesquels les profs ne seraient pas à 2 doigts de la révolte, n'est-ce pas ?
Alors, pour inciter la population de plus de 55 ans à se faire vacciner, on a appris que vous rêviez de voir la chanteuse Sheila le faire en direct à la télé.
Ah, oui, c'était ça. Et j'ai toujours eu, je dois vous le concéder, le confier, beaucoup d'admiration pour Sheila.
Ah bon?
Donne-moi ton bras et prends ta dose. Mais oui, mais oui, ça la marche. Pandémie est finie. Il y a un petit pied de trop, mais
ouais,
je pense qu'elle aurait été, oui, elle aurait été parfaite. Les papis, les mamies se seraient fait vacciner en masse, j'en suis certain.
Mais hélas, la chanteuse n'avait pas l'air tellement d'accord. Hein,
ah, c'était ça. Mais nous avançons, néanmoins, nous avons d'autres pistes. Nous avançons donc sur les dossiers de Chantal Goya, de M. Marcel Hamon, de Mme Régine, ainsi que sur le dossier de la bande à Basile.
Oh là là, bon. Est-ce que cette stratégie peut marcher, franchement? Vous pensez que les Français seront réceptifs?
Écoutez, nous n'avons pas 36 solutions. Les Français, on leur dit tous les jours que le vaccin est sûr. Les plus grands scientifiques du monde entier leur disent que c'est sûr, mais ils s'en foutent. Hein? Alors, les plus célèbres dirigeants se font vacciner, mais ils s'en foutent. Quasiment un milliard, j'ai les chiffres, là, même, j'ai regardé les chiffres. Oui. Un milliard de personnes y sont passées sans effet secondaire, mais les Français s'en foutent. Alors,
calmez-vous.
C'est vrai que, oui, bien fait, je suis une pile électrique. Alors, vous savez, oui, même quand je dis rien, je tourne la tête à droite, à gauche, comme ça, je suis tendu. Voilà. Alors, notre dernier espoir, vous l'avez compris, c'est qu'ils écoutent Monsieur Guy Marchand, Monsieur Adamo, Monsieur Herbert Léonard. Voilà, nous tentons notre chance. Il n'y a pas de raison. Il faut tout tenter. Nous ne lâcherons rien.
Eh bien, bon courage à vous. Et à nous, d'ailleurs. C'est la déclaration choc qu'on peut lire dans Le Monde. Marlène Schiappa souhaite que Cyril Hanouna anime le débat de l'entre-deux-tours, car, je cite, c'est quelqu'un de brillant qui connaît la société française. Bonjour Cyril Hanouna.
Salut ma petite beauté, salut mes chéris. Je te kiffe Julie, t'es bon. Il faut dire les choses. Moi j'aime bien, j'adore Julie. C'est mon animatrice radio préférée. Franchement, Mathieu, t'es un kiff. Il faut dire les choses quand on les ressent. Moi, c'est mon matinalier préféré. Ouais. Elle est géniale, Marlène Schiappa. J'adore. C'est ma ministre préférée, Marlène Schiappa. Elle a une super idée. C'est que j'anime le débat de l'entre-deux-tours. Je t'explique.
Quoi ?
Je ferai un coin d'Arca avec Macron et un coin Rassra avec Marine Le Pen. Mais le problème, c'est que je peux pas.
Bon, bah oui, mais on peut pas mélanger politique et divertissement, c'est sûr.
Non, c'est pas ça ma beauté. Bon, déjà, mes émissions, tu sais, quand je fais une émission, ça, c'est, elle débute à 18h, elle se termine à 23h. Donc, c'est trop long pour un débat. Les gens vont s'endormir, débat télé, ça va pas aller. Et puis surtout, je peux pas animer le débat du deuxième tour, vu que je serai au deuxième tour. Je peux pas m'animer moi-même.
Attends, Cyril, oui. Comment ça au deuxième tour?
En 2022, tu réfléchis. Oh, ouvre les yeux, je vais me présenter. Hé bébé, oh, attends, je suis comme Macron, moi. Moi aussi, chaque jour, je dirige une bande de nuls. Et avant de bosser pour Macron, et qui c'est qui était le producteur de Rosine Bachot, hein? C'est papa. Alors, je peux y aller en 2022. Et puis, sérieux, pour diriger la France, même Jean-Michel Maire, il sera pas pire que Castex. Hein? Puis au moins, et il a des costards à sa taille, mon Jean-Michel. Allez, votez, papa, avec lui, votez.
Allez, bon, c'est bon. Merci, Cyril Hanouna.
Je t'ai dit que j'adorais. Merci. Je te fais un bisou.
Thomas Pesquet, d'abord. Oui. Thomas Pesquet est donc arrivé à bord de la Station Spatiale Internationale et on a une exclue, il est avec nous ce matin. Bonjour Thomas Pesquet. Alors, vous êtes où exactement Thomas? Dites-nous.
D'accord, bah oui.
Ah bien, le son, on s'y croirait.
Alors là, je suis... je suis 12 rue Victor Hugo. Non, je déconne. Non, il y a pas de rue dans l'espace. Non, je suis actuellement au-dessus de Los Angeles. Excusez-moi, on a bougé. Là, je suis au-dessus de Melbourne. Non, on a rebougé. Là, je vois la carte là, mon écran. Je suis au-dessus de Tokyo. Non, effectivement. Non, mais alors, rebougé, je suis au-dessus de Londres. Je viens de passer au-dessus de vous à l'instant. Je suis au-dessus de Marrakech. C'est pénible la vie de spationaute. On voyage beaucoup, mais on n'a pas vraiment le temps de profiter.
Alors, plus sérieusement, Thomas, qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Dites-nous.
Vu de l'espace, on voit très très bien qu'en bas sur Terre, c'est le bordel. Hein, Covid, attentats islamistes, les bars, les théâtres. Oui, les théâtres fermés aussi. Moi, je vous préviens, je ne redescends plus. Hein, je reste ici au moins 2 ans, peut-être même 7 ans, hein, si Marine Le Pen est élue en 2022.
Sinon, rappelez-nous, quel est le but exact de votre mission, Thomas?
Ah ben c'est clairement de trouver une nouvelle planète, hein, parce que la Terre c'est plus possible. Donc je trouve une nouvelle planète et je repeuple.
Ah ben c'est pas idiot. Hein. Il repeuple, bah courage. Hein. À bientôt Thomas Pesquet. Une vingtaine de généraux, la plupart retraités ou radiés de l'armée française, ont publié une tribune dans Valeurs Actuelles. Une tribune très controversée, car la gauche et une partie de la droite la considèrent comme un appel à l'insurrection. Ah.
Sus aux traîtres du gouvernement, tous à vos mousquets, rechargez vos épées. Ou
Philippe de Villiers. Bonjour, monsieur de Villiers.
Bonjour, femelle. Enfin, le pays ouvre les yeux, car souviens-toi, j'appelais moi-même la semaine dernière au soulèvement dans Valeurs Actuelles, mais on a ricané, hein. On a ricané, le seul à me prendre au sérieux était le troubadour Francis Lalanne, un ami, un véritable ami, quasiment mon fidèle palefrenier, mais je ne me suis pas laissé démonter. Pour mener à bien ma révolution, je me suis rendu directement
dans une caserne, manifestement.
Non, dans une maison de retraite. Bonne pioche. Il y avait plein de vieux généraux désœuvrés. Je leur ai parlé des bagagistes de Roissy qui planquent des bombes dans nos valises, de la 5G dans les vaccins, des islamistes qui veulent le grand reset,
oh là là.
Du documentaire Hold Up de Big Pharma, de Big Media, de Big Ben et de Big R. Oh. Ils étaient comme des dingues. Attendez, je vous en présentais, moi, un général, un vrai. Mon général, s'il vous plaît. s'il vous plaît, faites-moi ce plaisir. Venez dire un mot à la radio.
Oh là là.
À la femelle. Allez.
À la femelle, non mais oh.
La radio, on n'entend plus que de la musique d'Africains à la radio.
Ouais, c'est parti.
Et des ajouts à cheveux longs. Et sur Internet, ils ont bien expliqué que le coronavirus, c'est le gouvernement mondial des amis de Macron qui l'a inventé. Il n'y a que la chloroquine, je vous le dis, qui peut empêcher les écologistes de construire des mosquées. Non à la 5G, non aux vaccins, non aux immigrés. Et je le dis, vive Francis Lalanne.
Ah, comment ne pas être d'accord avec ce cerveau hors norme. Alléluia.
Bravo Nicolas Canteloup et Julie de retour. Et on retrouve la revue de presse sur Europe1.fr, bien sûr, avant de vous retrouver demain matin à nouveau sur Europe 1. Philippe Vandel est là, Culture Média, la matinée continue de 9h à 11h. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Dans Culture Média, on va commencer comme toujours par l'info média qui va s'intéresser à un nouveau média 100% numérique, 100% gratuit, lancé par le groupe Bayer Press. Le nom est vraiment stupéfiant, l'anti-éditorial. Un seul thème traité par semaine pour se concentrer sur les faits et donc éviter l'éditorial journalistique. On en parle avec son créateur, le journaliste Jean-Pierre Denis. Au sommaire également, décryptage. Le succès de Secret d'Histoire, émission d'histoire présentée par Stéphane Bern. Déjà 150 numéros, ça marche toujours aussi bien. Ça avait été lancé en 2007 par le producteur Jean-Louis Romilleux. C'est lui qui sera ici avec nous. Et puis la journaliste Marie Drucker, je dis journaliste, mais elle a rendu sa carte de presse. Elle est productrice, elle sort des livres, elle sort En Forme. Livre où elle donne sa méthode pour se sentir bien. Alimentation, santé, beauté, sexe.
Vous voulez que je choisisse une...
Non, je savais que ça allait vous laisser sans voix. Elle sera dans ce studio.
Culture Média de 9h à 11h, évidemment. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter. Donnez-moi le livre quand même.